Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
À la une, cette catastrophe en Ituri, environ 80 villages inondés par les eaux du lac Albert. Près de 11 000 familles sont touchées et des milliers de personnes en déplacement. Un bilan encore provisoire apporte la coordination provinciale de la protection civile. La présence des forces de la MONUSCO dans les zones sous contrôle du M23 est très importante pour le suivi du processus de cessez-le-feu et de son mécanisme de vérification. Déclaration hier à Beni de la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection en RDC, Viviane Van de Perre, clôturait sa visite de 2 jours à Beni. Et puis, une dizaine de journalistes de Goma à l'école de la lutte contre la désinformation, formation organisée par la Fondation Hirondelle. Pour en parler, nous recevons Francis Albert Kangwem, son représentant à RDC. Madame, messieurs, bonjour. Commençons par l'Ituri. Près de 80 villages sont engloutis par les eaux, avec près de 11 000 familles affectées et des milliers de personnes en déplacement. C'est la conséquence de l'inondation des eaux du lac Albert dans 3 territoires, Djougou, Irumu et Maagi. Ce bilan, encore provisoire, est publié par la Coordination provinciale de la protection civile. Cette structure appelle les habitants installés dans des entités non encore touchées par les eaux à les quitter au plus vite en vue de prévenir des nouveaux dégâts. Jean-Claude Loki, reportage.
Dans le territoire de Maagi, plus de 20 camps de pêche sont envahis par les eaux avec près de 6000 ménages affectés. Les dégâts enregistrés sont énormes, affirme le coordinateur provincial de la protection civile. Plus de 12 000 maisons d'habitation détruites, ce qui a jeté dans les rues plus de 30 000 personnes. Dans la chefferie voisine de Mokambo, 23 villages sont touchés avec plus de 17 000 personnes contraintes de quitter leur milieu. Le territoire de Djougou n'est pas épargné par ce drame. Dans la chefferie de Baïma Banyuayi, 11 villages sont complètement engloutis. On note aussi la destruction des édifices publics dans le bureau de l'Office congolais de contrôle, OCC, de la police congolaise, de douane, des GDA et de l'hygiène aux frontières. Le centre de santé de Nyamamba et 2 fausses communes sont également submergées. En territoire d'Irumu, 1500 familles installées dans 15 camps de pêche ont vidé ces milieux. Une situation qui créait également un conflit entre agriculteurs et pêcheurs obligés d'accoster dans des champs des paysans. D'autre part, des déplacés en de nourriture, recours aux récoltes des autochtones. Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
Deuxième livraison de notre série de reportages sur l'analyse des prévisions des dépenses du budget 2025. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le budget destiné à la santé et à l'éducation. Les deux secteurs clés de la vie sociale des Congolais consomment à eux seuls 31% du budget 2025. Mais comment seront utilisés ces fonds? Michel Kifindangoy.
Considérant les chiffres avancés par le document numéro 6 portant développement par titre d'estimation des crédits pour l'exercice 2025, l'enseignement prend 17,72% et la santé 13,28% du budget 2025. Sur le budget de l'enseignement, les secteurs primaires, secondaires, techniques et professionnels de toute la RDC ne sont financés qu'à 1,71% et 3,6% pour les secteurs supérieurs, universitaires et recherche scientifique. La formation continue pour adultes prend 0,20%. Les 12,22 autres pourcents sont regroupés dans une rubrique nommée « Autres affaires concernant l'enseignement ». De même, pour le budget de la santé, sur les 13,28%, tous les secteurs de base allant de la pharmacie à la lutte contre les épidémies passant par les services de médecine, les hôpitaux et maternités prennent seulement moins de 2%. Plus de 11% restants sont destinés aux autres affaires concernant la santé. En clair, sur les 31% destinés à la santé et à l'enseignement, 7% seulement seront réellement dépensés pour les deux secteurs. Les 24% autres sont destinés aux autres affaires non clairement définies.
Dans l'actualité aussi, une centaine d'élèves du primaire du district de la Tchangou ont visité le week-end dernier le hub de conservation des vaccins et des autres produits médicaux de Kinkole dans la commune de Lancélé. Nous sommes à Kinshasa. Selon le programme élargi de vaccination PEV, l'objectif de cette visite guidée est de sensibiliser les enfants sur l'importance du vaccin, ses avantages et les conditions de conservation afin qu'ils servent d'ambassadeurs de la vaccination auprès de leurs collègues et de leurs familles. Jean-Pierre Elali Koko a accompagné ses enfants dans leur visite. Au reportage.
C'est à 10 heures après une pluie battante que les enfants de quelques écoles de la Tchangou sont arrivés dans l'enceinte de l'entrepôt de conservation des vaccins de Kinkolé. Accueillis par les responsables du dépôt du PEV, les enfants ont suivi un briefing sur la chaîne de froid de conservation des vaccins. Ensuite est venu le tour des différents compartiments de l'entrepôt. Gilles Collat, gestionnaire de l'entrepôt, explique.
Ça va pouvoir garder le froid. Hein? On met dans le porte-vaccin et c'est ça ce qu'on appelle accumulateur. Ok, on va tenir ça à la main et c'est ça qu'on appelle le calendrier de vaccination de l'enfant.
À l'issue de la visite, certains enfants se sont exprimés.
Nous sommes venus visiter des chambres froides et l'entrepôt là où se gardent les vaccins.
Les vaccins aident nos petits frères avec nos petites soeurs, avec des femmes enceintes.
Construite en 1996, cet entrepôt a été inauguré en 1998. Elle a une capacité de 2200 m3 positifs et de 140 m3 pour les stockages négatifs, ce qui fait de lui le hub médical le plus important d'Afrique centrale.
Rendons-nous dans la ville de Beni, au nord Kivu. Nous apprenons que 6 mois après l'attaque des EDF dans le quartier Sayo, l'unique centre de santé du quartier reste hors service. Les malades sont contraints de parcourir plus de 5 km pour trouver une structure sanitaire temporaire mise en place pour pallier ce manque. Le chef du quartier plaide pour la réouverture du centre de santé pour faciliter l'accès aux soins de santé primaires des habitants. Flavien Nzanzou, au micro de Marc Marofimbo.
Ce centre de santé de chez nous a été bien construit. Étant il y a eu massacre ici dans le quartier, les infirmiers ont fui vers Beni. Heureusement que le médecin chef de zone a ouvert un poste de santé d'urgence dans le quartier Ngongolio. Ce centre est là pour la prise en charge des malades du quartier Sayo, en attendant que la situation soit calme pour que les corps soignants retournent ici. Et comme il y a eu une tranquillité dans les milieux, il y a nécessité que le médecin chef de zone nous aide à remettre tout à sa place, les corps soignants et les médicaments dans notre centre de santé, car la population peine pour se faire soigner. D'ailleurs, à peu près 50% de la population est retournée et les autres viennent tous les jours et retournent dans la ville de Beni car ils ont encore des contrats de location en cours. Ils n'attendent que leur expiration pour retourner ici au quartier.
La présence des forces de la MONUSCO dans les zones sous contrôle du M23 est très importante pour le suivi du processus de cessez-le-feu et de son mécanisme de vérification. Déclaration hier à Beni de la chef adjointe de la MONUSCO chargée des opérations et de la protection en RDC. C'était lors d'un point de presse au terme de sa visite de 2 jours dans la région de Beni. Selon Viviane Van de Perre, cette présence permet aussi de faire le suivi des négociations entre les belligérants et le gouvernement congolais. Viviane Van de Perre, au micro de Marc Marofimbo.
C'est très important pour nous de retenir nos bases dans les zones où le M23 se trouve parce qu'il y a un processus de négociation, de médiation entre le gouvernement des RDC et le gouvernement du Rwanda qui s'appelle le Luanda Processus qui est géré par le président d'Angola et il y a un cessez-le-feu. Et c'est très important pour nous de rester là-bas parce qu'il y a aussi un mécanisme de vérification de ce cessez-le-feu. Et on doit vérifier à deux côtés. Alors, la MONUSCO a un mandat de soutenir ce processus, de soutenir le mécanisme de vérification. Et alors, c'est important que nous restons là. Mais c'est difficile pour nous, pour les rotations des troupes, pour le ravitaillement des troupes. Mais on reste là-bas pour l'instant. Et ça dépend qu'est-ce qui se passe avec le processus de Luanda, si on reste ou pas.
Entre-temps, sur le terrain des affrontements, la situation est restée tendue hier dans la zone de Peti, territoire de Walikale. Nous sommes au nord Kivu. Cette zone fait face à d'intenses combats qui ont repris le lundi entre l'armée et la rébellion du M23. La persistance des affrontements depuis quelques semaines dans la zone exacerbe la situation humanitaire qui affecte des milliers de ménages qui fuient les combats. L'ambassadeur de Belgique en RDC est arrivé hier à Goma. Roxane de Bilderling affirme qu'elle est au nord Kivu pour montrer sa solidarité à la population par rapport à ce qui se passe dans cette province. La diplomate belge dit vouloir aussi comprendre de près la situation et apporter l'appui de son pays aux efforts de paix. À son arrivée, elle a visité l'institution de microfinance SMICO, une institution créée par des Belges et des Congolais. Madame Roxane de Bilderling Darling revient sur l'objet de sa mission au micro de Rosalie Zawadi.
Et je tiens à venir régulièrement sur place pour mieux appréhender la situation et puis aussi essayer de vraiment montrer notre soutien, que ce soit aux efforts diplomatiques qui sont en place. On sait que l'Angola, par exemple, mène actuellement une mission de médiation pour essayer de trouver un accord de paix. Ben, la Belgique vraiment soutient très fort ces efforts-là, soutient aussi la RDC, la population qui souffre à travers une aide humanitaire, à travers la coopération au développement. Je suis aussi là pour soutenir les activités du festival Amani. Et je sais que beaucoup de personnes ont remis en question, et on peut le comprendre, dans un contexte très difficile comme il l'est actuellement, de tenir un festival. Mais je crois que la ville de Goma est vraiment traumatisée, est vraiment affectée très fortement par l'insécurité qui se passe. Et je me dis que parfois, maintenir courageusement ce genre d'événement, c'est aussi montrer qu'on ne les laisse pas seuls et qu'on ne réduit pas Goma uniquement à cette question d'insécurité. Mais Goma, c'est beaucoup plus que ça. Le Nord Kivu, c'est une population dynamique qui aspire à la paix. Et je crois qu'en venant à ce festival, on peut leur montrer qu'on est avec eux.
Durant sa mission au Nord Kivu, l'ambassadeur de Belgique en RDC va échanger avec les autorités et d'autres acteurs sur le contexte sécuritaire dans cette province. Direction le Congo central, la population de Ndanganda dans le secteur de Kimbanza, territoire de Luozi, vit dans la peur actuellement. C'est à cause des détonations d'armes tirées par des militaires affectés dans cette partie du pays pour sécuriser la zone frontalière avec le Congo-Brazzaville. Selon l'administrateur de Luozi qui confirme l'information, ces coups de feu inquiètent la population qui n'est pas habituée à ce genre de situation. Alfred Ngoma affirme cependant que la situation est sous contrôle grâce à une équipe de la DEMIAP déployée dans cette zone frontalière pour empêcher la dissipation des munitions dont font montre certains militaires commis à cette frontière. Nana Plurish Mambou.
D'après la société civile locale, il ne se passe pas un jour sans que des coups de feu ne soient attendus dans l'agglomération de Ndandanga vers la frontière entre les deux Congo. Ces tirs à répétition n'inquiètent pas seulement les habitants, mais les empêchent aussi d'accéder à leurs champs. Contacté, l'administrateur du territoire de Luozi renseigne qu'il s'agit d'un militaire qui, sous l'ivresse, s'adonne à tirer bêtement en dépit de plusieurs mises en garde lui adressées. Cependant, il rassure la population de l'agglomération de Ndandanga que tout est maintenant sous contrôle. Rappelons que c'est depuis plus d'une année que les autorités ont déployé des militaires au village Ndandanga ainsi que dans les secteurs de Kivunda et Balari pour la sécurisation des zones frontalières. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Parlons à présent des états généraux de la justice. Au dernier jour des exposés des panélistes hier, le président de la commission de censure, l'avocat général Vincent Bichia, propose la suppression du CESAC et de laisser la place au seul ministère de la communication et médias. Selon Vincent Bichia, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est une institution d'appui à la démocratie. Or, nous sommes déjà en pleine démocratie, donc il doit disparaître d'après lui. Proposition très applaudie par les participants. Le président de la commission de censure formule ici quelques recommandations pour réformer son institution. Propos recueillis par Jeff Ngoy.
Parce que je me demande, le CESAC appuie quoi? Parce que la République démocratique du Congo, c'est un état où la démocratie est vraiment libre. Et laisser la place au ministère de la communication et des médias qui doit jouer ce rôle. Pour redynamiser votre commission, nous proposons les réformes suivantes. Modifier le décret de la Commission nationale de censure afin de l'adapter à l'évolution des nouvelles technologies. Renforcer la transparence et la responsabilité, mettre à la disposition du public les critères de censure de manière claire et accessible. Améliorer la représentation au sein de la commission pour garantir la représentation équitable afin d'obtenir des résultats.
Sachez que les états généraux de la justice ont connu hier la fin des travaux en plénière et début des travaux en atelier pour 3 jours. C'est après 5 jours de débat. La clôture est prévue le samedi 16 novembre. Les travaux sont donc éclatés en atelier. 9 commissions ont été mises en place, incluant toutes les composantes de la justice, à savoir état de droit, justice de qualité pour tous, accès au droit et à la justice, statut des magistrats, indépendance de la justice, conseil supérieur de la magistrature, modernisation et performance de l'administration judiciaire, amélioration du climat des affaires, justice fondée sur le respect de la dignité humaine, justice pénale, administration judiciaire et pénitentiaire, planification, coordination, suivi des réformes et financement de la justice, justice internationale, justice transitionnelle et justice alternative.
Actualité internationale.
Le procureur de la Cour pénale internationale est sous le coup d'une enquête pour des allégations de mauvaise conduite sexuelle envers une employée de son bureau. La décision a été prise la semaine dernière par la présidente de l'Assemblée des 124 États membres de cette Cour. En attendant les conclusions de cette enquête, le procureur a annoncé qu'il continuerait à exercer son mandat.
L'invité.
À Goma, une dizaine de journalistes locaux de la presse écrite et audiovisuelle sont à l'école de la lutte contre la désinformation pour la Fondation Hirondelle qui organise cette formation au regard des tensions politiques et sociales exacerbées par la manipulation et la propagation des fausses nouvelles. Il est crucial que les journalistes soient outillés pour analyser les informations et révéler la vérité. Pour en parler, nous recevons Francis Albert Kangwem, représentant de la Fondation Hirondelle en RDC. Il est avec Sifama Gourou.
Bonjour Monsieur Francis.
Bonjour.
Alors, vous avez organisé un atelier de capacitation des journalistes locaux de la presse audiovisuelle et écrite sur la lutte contre la désinformation. Qu'est-ce qui a motivé cet échange entre journalistes? Quel est le problème que vous avez constaté?
Vous savez, la désinformation, surtout celle orchestrée par des acteurs étatiques ou leurs affiliés, est une menace sérieuse pour la démocratie et la paix sociale, en RDC et partout ailleurs. Parce que, vous savez, lorsque des fausses informations sont diffusées de manière intentionnelle, cela peut déstabiliser la société, semer la méfiance entre les communautés et affaiblir la confiance du public envers les médias. À RDC, donc, où les tensions politiques et sociales sont souvent exacerbées par la manipulation de l'information, et spécifiquement dans un contexte d'état de siège, il est essentiel que les journalistes soient bien équipés pour reconnaître ces campagnes de désinformation et pour y répondre de manière efficace. Donc, à travers cette formation, on leur donnera les compétences pour analyser les informations de manière critique et pour revenir la vérité même lorsque la désinformation provient des sources influentes.
Et pour comprendre comment la Fondation Hirondelle, votre organisation, est impliquée par rapport à la problématique de la désinformation en RDC.
Oui, vous savez, notre mission est de promouvoir un journalisme indépendant et éthique, et cela inclut, n'est-ce pas, de contrer les formes de désinformation qui peuvent déformer la réalité ou instrumentaliser l'information à des fins politiques. Donc, à travers notre programme ici en RDC, nous mettons en œuvre ce projet-ci qui nous rassemble aujourd'hui, qui est financé par l'ambassade des États-Unis et qui vise donc à renforcer la résilience des médias, spécifiquement des journalistes, pour qu'ils puissent mieux répondre, n'est-ce pas, à cette campagne de désinformation orchestrée par les acteurs non étatiques ou leurs affiliés. Et donc, à côté de cette action précise financée par l'ambassade des États-Unis, nous avions actuellement un autre programme qui est financé par l'Union européenne, qui vise aussi à renforcer l'intégrité de l'information. Et nos actions antérieures nous ont permis ainsi de former plusieurs autres journalistes dans plusieurs provinces de la RDC, d'organiser des campagnes d'éducation aux médias et d'appuyer, n'est-ce pas, la production des contenus par les médias locaux pour qu'ils puissent donc des contenus qui contre, n'est-ce pas, à la désinformation et qui sensibilisent le public sur la nécessité de vérification des faits en RDC. Et cela se fait à travers notre cellule de fact-checking basée au studio Hirondelle qui produisent donc des contenus de façon hebdomadaire, qui organise des activités sur le terrain pour rapprocher les communautés et les sensibiliser sur la thématique de la désinformation et des discours de haine.
En suivant les débats, il s'est avéré que la pratique de toutes ces notions qui sont données aux journalistes demande d'une certaine manière le moyen. Et quand on parle de moyens, on voit l'accès à l'Internet et au regard des réalités au niveau local, la presse locale, c'est pas tous les journalistes qui ont un bon accès à l'Internet, alors que c'est la base même hein, pour pouvoir utiliser tous les programmes pour vérifier la bonne des informations. Est-ce que dans ce sens, vous comptez faire quelque chose pour appuyer la presse afin que cette formation ne puisse pas rester lettre morte?
Oui, vous posez là une bonne question qui soulève, n'est-ce pas, la nécessité d'avoir une approche holistique pour répondre à ces questions-là. Et en tant que Fondation Hirondelle, nous appuyons aujourd'hui également d'autres médias en termes, n'est-ce pas, de matériel et en termes, n'est-ce pas, de soutien à la production. Et pour parler de ce cas précis, puisque nous attendons qu'à la fin de cette formation, les journalistes que nous formons puissent devenir des sentinelles de la vérité, en particulier face à ces campagnes de désinformation. Donc pour nous, cette initiative est une initiative pilote qui est pour nous un point d'entrée pour un programme plus vaste. Pour cette formation, nous mettons un accent sur les technologies de l'intelligence artificielle et les deepfakes. Et on ne peut pas donc faire ce monitoring-là sur l'Internet si on n'a pas le minimum pour le faire. Pour nous, il est nécessaire, hein, comme vous l'avez reconnu, d'avoir une autre action qui puisse donc complémenter cela.
Merci beaucoup, monsieur.
Je vous en prie.
Voilà, notre invité est le représentant de la Fondation Hirondelle en RDC. Il répondait aux questions de Sifa Maguru. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.